les boîtes veulent scaler, les utilisateurs veulent se débrouiller par eux-mêmes. Dans un monde idéal, honnêtement, tout se passe bien.
Bonjour et bienvenue dans CSM & Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn, et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans CSM & Co pour ce nouvel épisode. Pour ce nouvel épisode, je suis ravi d'accueillir Benoît. Salut Benoît, comment vas-tu ?
Hello, super, merci de m'accueillir François.
Écoute, avec plaisir, on va avoir un gros sujet aujourd'hui sur notamment la Customer Education. On a plein de choses à partager sur ce sujet-là et sur des études que vous avez menées, plein d'infos sur l'état un peu du Customer Success. Ouais. Mais avant de discuter de tout ça, je vais faire comme d'habitude, je vais simplement te demander de te présenter, de nous parler un petit peu de ton parcours en quelques mots. Qui es-tu, Benoît ?
Je suis entrepreneur depuis plus de 17 ans maintenant. J'ai monté une première startup en 2007-2008 qui s'appelle Ubico dans la mobilité partagée, qu'on a démarré from scratch, puis développé jusqu'à 200 salariés dans 6 pays et revendu au groupe Europcar en 2017. Ça, c'était ma première aventure entrepreneuriale.
Okay. Petite info rigolote, ça a été mes clients à un moment chez LinkedIn Ubico.
Ah ben voilà.
Comme quoi. Mais c'était après, c'était quand c'était Europe.
En même temps, chez LinkedIn, t'as, à mon avis, à peu près la terre entière comme client, non ?
C'est possible. Mais je ne les ai pas tous eus.
Non, mais voilà. Donc, c'est la première aventure entrepreneuriale intense, à la fin de laquelle tu te dis, non, mais plus jamais, c'est trop dur. Et puis, évidemment, j'ai replongé quelques années plus tard, d'abord sur un projet qui s'appelle Askit, qui était une marketplace de services B2B, pour faire très court. Et qui a pivoté sur un projet qui s'appelle Melting Spot, donc qui est la startup sur laquelle je bosse aujourd'hui. Melting Spot, c'est une customer education platform. Donc, on est un peu dans le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, évidemment. Yes. On aide en fait les SaaS en particulier, mais plus largement les professional services et toute entreprise à gérer, animer des communautés, des réseaux de clients en ligne.
Ok, et c'est une plateforme qui se plug dans les plateformes SaaS des clients, c'est ça ?
Ouais, exactement. L'originalité de Melting Spot, c'est qu'on a, ouais, on va en parler, on a pensé, imaginé Melting Spot pour qu'on puisse embarquer notre produit dans n'importe quel autre produit ou application, de manière à ce que l'expérience utilisateur soit la plus seamless possible.
Ok. Sur différents aspects, je ne sais pas si tu en parlais maintenant ou plus tard, mais de communauté, de vidéos, de training, webinar, enfin il y a pas mal de choses.
Voilà, en fait, ce qu'on appelle une Customer Education Platform, je suis sûr que si on faisait un petit sondage parmi ceux qui nous écoutent, le premier réflexe serait de penser à un LMS. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Customer Education, on pense à Customer LMS, même pour être plus précis, qui est un peu différent du Employee LMS. Nous, en fait, on considère que l'éducation est beaucoup plus multiforme ou multimodale. Ce n'est pas forcément que des cours en ligne. Il faut aussi qu'il y ait une brique plus communautaire avec des forums. Il faut qu'il y ait du webinar, du live, des replays, des librairies de ressources partagées pour qu'il y ait aussi du contenu. En gros, l'éducation d'un client doit se faire en fonction de chacun des clients. Ça, c'est notre conviction profonde. Il faut proposer une multitude de formats pour que chaque client trouve un peu chaussure à son pied et donc ait la possibilité de s'éduquer. S'il a envie de lire un article, il lit un article. S'il veut écouter ou regarder une vidéo, il regarde une vidéo. S'il veut faire un cours en ligne, il fait un cours en ligne. Mais on ne peut pas lui imposer un format plus qu'un autre. C'est ça ce que nous, on appelle une Customer Education Platform. C'est une plateforme qui va proposer tous ces formats d'éducation client et qui ensuite va s'embarquer dans l'expérience des utilisateurs d'un SaaS notamment, pour que l'adoption soit la plus facile et la plus rapide possible.
Ok, cool. Bah, écoute, merci pour ces explications un petit peu. On comprend. Et surtout, donc, ma question suivante, ça va être sur les CSM en particulier, puisque en fait, c'est une de vos deux cibles, et je crois une des cibles principales sur lesquelles vous êtes positionné, la partie Customer Success. Et du coup, ma question, ça va être d'autant plus intéressant que tu n'es pas toi-même CSM. Comment tu vois justement le Customer Success? Qu'est-ce que c'est pour toi que le succès client? Comment tu le définis?
Pour moi, le succès client, je vais reprendre un peu une définition que j'avais vue, que je trouve intéressante. C'est vraiment quand on arrive à la high effective adoption, le niveau où le client utilise un produit, éventuellement un service, et ne pourrait plus s'en passer. Pourquoi ? Okay. Pas parce que le truc est sticky et que c'est super, c'est gamifié, tout ça, non. Parce qu'en fait, il atteint ses objectifs business. Donc pour moi, le succès pour un client, c'est quand il atteint l'objectif business qu'il s'est fixé en utilisant un produit ou un service donné, quoi. Et ça, c'est une règle chez nous, comme dans beaucoup d'équipes Customer Success, de se dire, bon, évidemment, il y a les clients qui n'utilisent pas, ceux-là, ils sont en risque. Il y a les clients qui utilisent beaucoup, mais qui ne sont pas effectifs, c'est-à-dire en fait qui sont dans l'utilisation du produit, mais sans pour autant atteindre leurs objectifs. Ceux-là, ils vont churner potentiellement. Et puis, il y a les clients qui, au contraire, utilisent beaucoup et en plus atteignent tous leurs objectifs. Et là, en fait, on est vraiment dans le scénario win-win où tout le monde est content, quoi.
Okay, pour moi, l'usage ne suffit pas.
On arrive à amener nos clients à cet état-là de high effective adoption d'un produit. À partir de là, on est serein et tout le monde est content. On crée de la valeur réellement pour le client. Le client crée de la valeur pour lui-même et pour sa boîte parce qu'il atteint ses objectifs. On aligne les intérêts et là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi.
Ok, c'est intéressant de se dire que l'usage ne suffit pas, quoi. C'est aussi utiliser beaucoup un outil et ne pas avoir de valeur à la fin d'atteindre ses objectifs, ça ne suffit pas. C'est bien d'utiliser, mais il faut que ça arrive à quelque chose derrière. J'aime bien ça.
Ça peut être une étape, l'usage déjà, mais l'usage sans l'objectif, sans la réalisation des objectifs business, pour moi, ça reste un client qui est à risque.
Clairement. C'est d'où l'importance pour tous les CSM de bien définir les objectifs de votre client. Clairement, quand on commence l'accompagnement, d'être bien clair sur quels sont ses objectifs, parce qu'au final, c'est ça qu'on va devoir mesurer. Vous avez beau avoir une super adoption, si derrière, on ne sait pas quels objectifs on veut atteindre, qu'on ne les a pas identifiés, qu'on n'y répond pas, ça ne marchera pas, quoi.
Je pense que pour moi, c'est plus important que d'avoir des objectifs d'adoption, par exemple, de produits, de features. Évidemment, beaucoup de CS se disent, il faut que mon client utilise tel feature.
C'est un bon début.
C'est un bon début, ça crée l'usage, comme on vient de le dire, mais ce n'est pas suffisant. Si on ne va pas au bout et qu'on ne lui permet pas d'atteindre ses objectifs business, le client s'en ira. Oui, il ira voir à la concurrence, mais il s'en ira.
Il s'en ira. Tov, écoute, merci pour ces éléments. On a posé un petit peu le décor de tout ce sujet dont on va parler. Pour continuer de poser le décor, justement, il y a quelque chose que vous avez fait, qui est une étude que State of the CS Nation, donc l'état, je ne sais pas comment tu veux dire, l'état du customer success, de la nation
l'état
customer
des lieux, success. L'état des lieux, l'état des lieux. Du customer success. C'est, donc, en effet, l'étude, elle est en anglais parce qu'on a sondé plus de 2000 équipes customer success principalement Nord-Amérique, Europe, un petit peu en Asie, avec un sondage, une enquête, tout simplement, qui tourne. Donc, on a toujours des réponses à cette enquête. State of the CS Nation, c'est le nom, et qui nous permet de comprendre un peu l'état des lieux et surtout l'évolution de cet état des lieux et du marché du customer success, avec un angle très orienté problématique. Quels sont les enjeux des équipes customer success? Est-ce que c'est des choses qui évoluent dans le temps? On a lancé le survey, l'enquête, en mai-juin l'année dernière. Donc, on commence à avoir un petit peu de retour et on voit en effet qu'il y a des enjeux ou des priorités qui se déplacent un peu, selon les zones géographiques aussi. C'est intéressant de regarder que certaines priorités aux États-Unis sont beaucoup plus marquées qu'en Europe, probablement, peut-être, parce qu'il y a une plus grande maturité. Notamment dans le CS, clairement, une plus grande maturité. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Enfin, quand on regarde aux États-Unis, a priori, on voit ce qui va se passer en Europe dans les 18 prochains mois.
Et du coup, c'est quoi les grands enseignements de tout ça, les priorités, les challenges que vous avez remarqués, qui vont un peu shaper le CS dans les quelques mois à venir et puis dans les années à venir?
Alors, on a sondé. Il faut dire un peu qu'on a 70% de ceux qui répondent qui sont dans le SaaS, d'accord ? Donc, on a quand même un angle très orienté logiciel et SaaS en particulier. Quand on regarde ces équipes CS, on s'aperçoit qu'elles ont trois challenges principaux. C'est les mêmes depuis mai-juin 2023.
Okay.
Combattre le churn. Donc, travailler la rétention, c'est l'enjeu numéro un de largement. Ensuite, okay. C'est accélérer l'adoption des nouvelles fonctionnalités et c'est okay. scaler l'onboarding des clients. Okay, ça, c'est les trois priorités qui se détachent assez largement de toutes les autres. C'est donc la lutte contre le churn, l'adoption des nouvelles features et le scaling, ou le, je sais pas trop comment dire, mais faire de l'onboarding client à grande échelle. Voilà. Okay. Okay. Ça, c'est les trois grosses priorités, les trois gros challenges, pardon. Et quand on regarde les priorités de ces équipes dans les roadmaps 2023-2024, c'est déployer des outils pour scaler. Ça, c'est la première priorité. Mettre en place plus d'outils. C'est intéressant quand on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'en effet, les équipes CS ont été un peu, je dirais, les parents pauvres de nos organisations sur les 10 dernières années. Hein. C'était beaucoup l'email, le téléphone, on faisait du customer success, je ne vais pas dire à l'ancienne parce qu'il faut toujours le faire aujourd'hui, mais très orienté one-to-one et high touch. Okay, donc avec l'email, le téléphone et en one-to-one, on contactait les clients, on fixait des rendez-vous, on calait des routines. Aujourd'hui, le sujet, c'est de scaler ça. Alors, pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une recherche d'efficacité opérationnelle, de capital efficiency aussi, donc d'efficacité capitale de chaque euro investi, on va dire, doit rapporter... nous rapprocher davantage de la rentabilité. Donc, tous ces termes, capital efficiency, rentabilité, c'est des termes qui sont réapparus dans le monde des startups, notamment, et dans le SaaS en particulier, ces 18 derniers mois, principalement en Europe, et qui font qu'on s'est posé la question de comment scaler le customer success, c'est-à-dire faire accueillir, accompagner plus de clients avec autant de ressources, sans forcément faire grandir les ressources. Parallèlement à la base de clients, quoi. Okay. Et ça passe par des outils. Donc c'est devenu la priorité numéro un de mettre en place les bons outils. La priorité numéro deux, c'est de processer, mettre en place les bonnes organisations aussi. Donc avec, on voit l'émergence de tout ce qui est un peu digital CS, low touch CS dans les organisations CS. Et la troisième priorité, c'est plus de self-service. Donc tout ça va dans le même sens, hein. Essayer d'accélérer le déploiement des ressources self-service à destination ou mise à disposition des clients. Quoi. Okay, ça, c'est les priorités des équipes.
C'est la même chose dans les différentes régions. Ça, c'est des choses que ces trois-là, tu les retrouves partout à peu près de la même façon.
Je les retrouve de manière plus marquée en Europe parce que c'est des process qui ont déjà été mis en place aux États-Unis. Donc, on voit que c'est plus marqué encore... typiquement en Europe qu'aux États-Unis, dans les priorités. Okay. Honnêtement, on voit qu'il y a plus de moyens dégagés en moyenne pour les équipes CS. Donc, on leur donne plus de ressources et c'est devenu un sujet plus stratégique. Quand on leur demande, voilà, est-ce que c'est plus stratégique, moins stratégique le Customer Success dans votre organisation en 2023, en 2024 qu'en 2022, en 2021 ? C'est plutôt plus, d'accord ? Donc, on s'aperçoit que l'expansion, la rétention, l'onboarding des clients, c'est des sujets qui ont tendance à être beaucoup plus dans les radars, notamment des CEO, versus l'acquisition qui était le gros focus des années précédentes. Donc ça, je le dis, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, mais clairement, nous, les chiffres le démontrent. Si on fait un petit focus sur la customer education, qui est le sujet dont on va parler un peu plus en détail, c'est intéressant aussi de voir que la fonction Customer Education Manager ou Head of Customer Education, elle est largement déployée déjà aux US. Donc, il y a 60% des boîtes aujourd'hui qui ont une fonction Customer Education dans leur équipe Customer Success. D'accord ? Donc, elle est rattachée au Customer Success, mais c'est une fonction vraiment spécifique de l'équipe Customer Success. On est seulement à 40% en Europe. Et on voit aussi qu'en Europe, 35 à 40% des SaaS qu'on a interrogés ont un projet, par exemple, de déployer des outils de type académique pour digitaliser et scaler les process de Customer Education. Bon, c'était pour faire un petit focus sur la Customer Education. Mais voilà, en gros, tous ces résultats, ils sont disponibles d'ailleurs sur le site web, sur la homepage de Melting Spot en téléchargement. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil.
Yes, on l'ajoutera dans la description de l'épisode, je mettrai le lien pour ceux qui veulent aller chercher ça facilement et rapidement. Et c'est intéressant ce que tu dis en effet sur ce focus où pendant des années, en effet, on se disait les Customer Success, ils peuvent se démerder avec un CRM par exemple, tout simplement. Et là, tu vois, le sujet de la Customer Success Platform est de plus en plus, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps justement sur ce sujet-là parce qu'on se rend compte que l'approche CSM a besoin d'outils qui sont différents. Et notamment, le CRM ne suffit pas forcément à faire du customer success. Et puis, l'autre chose que tu disais qui est intéressante, qu'on voit beaucoup, et que moi je vois même chez des clients, c'est ce focus sur les CSM parce qu'il y a un marché qui n'est pas forcément favorable, notamment pour les boîtes de la tech. Il y a un retour là depuis quelques mois, années maintenant, qui fait qu'en effet, on donne une place plus grande à la partie upsell, lutte contre le churn, etc., qui était en effet moins focus avant, on disait acquisition, 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 et là maintenant on se rend compte qu'il y a, on arrive à un plateau un peu où il faut aussi les garder ces clients-là et ça peut coûter moins cher de les garder que d'en récupérer des nouveaux.
Et de les upseller, ouais, carrément.
Exactement.
Ouais.
Donc tout ce qui est cross-sell.
On voit aussi que je trouve que les équipes Customer Success gagnent en indépendance, notamment sur le choix de leurs outils. Tu parlais de la Customer Success Platform versus le CRM. Une des raisons pour lesquelles de plus en plus de SaaS déploient une Customer Success Platform, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un outil sur lequel ils ont réellement la main. C'est leur outil, c'est leur stack.
Ouais.
Ils peuvent travailler sereinement et en toute autonomie. Quand c'est le CRM, on touche déjà un outil qui est un peu l'operating system de la boîte. On a plus de difficultés à faire les ajustements dont on aurait besoin. C'est la même chose dans la Customer Education. Ces dernières années, les équipes Customer Success, en gros, reposaient sur les équipes produits qui allaient mettre des product tours, des checklists, tout un tas d'outils pour accélérer l'adoption du produit. Mais aujourd'hui, on voit que les équipes Success ont besoin de leurs propres outils, que ce soit des académies, des communautés, etc., pour faire leur boulot et ne pas reposer que sur les outils des autres équipes, quoi, en gros. C'est vrai que ça, c'est une tendance assez forte aussi, mais qui vient du fait qu'il y a plus de lumière sur la fonction Customer Success, il y a plus d'enjeux, et donc on libère plus de ressources, plus de moyens, et on donne aussi plus de responsabilités.
Et un autre point, du coup, qui est assez lié à ce qu'on vient de dire, tu parlais de différents outils. Et en effet, on se rend compte, c'est quelque chose que tu m'avais partagé, que la relation client, en fait, elle, en SaaS notamment, elle va être éclatée sur tous ces outils, sur tous ces canaux. On a un peu d'informations quelque part. On va joindre le client en utilisant des infos du CRM. Ensuite, on va avoir des indicateurs sur. Enfin, voilà, il y a une communication qui est aussi éclatée sur plein d'outils qui vont être répartis un peu tout le monde. Est-ce que justement, tu peux nous partager un peu ce que vous avez observé là-dessus sur ce fait que la relation avec les clients elle est éclatée sur plein d'outils, de canaux, etc. Et pourquoi est-ce que c'est un problème en termes de satisfaction client, d'engagement client, etc. C'est quoi le souci d'avoir tous ces canaux en fait?
Ouais. Donc en effet, il y a beaucoup de canaux de communication, d'éducation, d'accompagnement au sens un peu large. Les deux canaux, et d'ailleurs, c'est une des questions de notre survey sur l'état des lieux du Customer Success, les deux canaux qui restent largement majoritaires, c'est l'email en 1. 96% des équipes CS utilisent l'email pour communiquer avec leurs clients. Et le téléphone, 60%. Okay, donc, bon, mais c'est une évidence, c'est-à-dire que ça reste quand même les deux canaux privilégiés. Maintenant, à côté de ça, il y a plein d'autres canaux de communication qui vont être utilisés, notamment pour communiquer du contenu, etc. Le problème de ça, c'est que ça crée un déficit d'engagement. Premièrement, c'est-à-dire que plus on va multiplier les canaux, moins on va créer en quelque sorte sentiment d'appartenance du client au produit ou à la marque, et du coup créer aussi artificiellement un déficit d'engagement parce que le client voilà, va consommer un peu le contenu à droite à gauche, mais difficilement engagé avec chacun de ces contenus. Le problème le plus important surtout que nous on a constaté et sur lequel du coup on a construit Melting Spot, en tout cas un des problèmes sur lesquels on a construit Melting Spot, c'est que tous ces contenus amènent le client en dehors du produit, d'accord ? Et ouais. Un des enjeux de n'importe quel customer success aujourd'hui, en particulier dans le SaaS, c'est faire revenir le client dans le produit le plus souvent possible, d'accord ?
Ok.
Quand vous faites un webinar pour, par exemple, faire une session d'onboarding groupée, vous allez onboarder vos clients de la semaine ou du mois passé, tous en même temps. C'est une bonne pratique quand on veut scaler justement son customer success. Ouais. Quand vous voulez annoncer un set de nouvelles fonctionnalités en vidéo via un webinar, là encore, ou un atelier, vous allez le faire sur un outil, une plateforme de webinar. C'est la bonne pratique aujourd'hui. C'est une bonne pratique aujourd'hui. Il faut le faire. Le problème de faire ça, c'est que ça ne fait pas revenir vos clients dans votre produit, d'accord ? Et c'est un problème, je trouve, de se dire, OK, j'ai amené 80 de mes clients sur ma session de présentation des nouvelles fonctionnalités sur une plateforme. À la fin, ils ont fermé la plateforme, ils sont passés à autre chose. Ils ne sont jamais revenus sur mon produit. Ils ont peut-être trouvé ça super, etc. Nous, on pense que tout ça doit se faire dans le produit. Donc, c'est pour ça que Melting Spot s'embarque en tant qu'outil dans les outils de nos propres clients. Mais par exemple, il faut pouvoir faire ces sessions d'onboarding ou ces feature release directement dans son SaaS, de manière à ce qu'à la fin de la présentation vidéo de 20 minutes, l'utilisateur, il a vu et il est dans le produit et il continue d'interagir, de tester ce qu'il vient de voir en vidéo. C'est beaucoup plus efficace. Ouais. Donc, la multiplication des outils, des plateformes, des canaux de communication avec vos utilisateurs et vos clients, à la fin, ne vous aide pas à faire revenir les clients dans votre produit. Et donc, je fais souvent réfléchir les équipes Customer Success avec qui on parle à, dans un monde idéal, comment vous faites pour communiquer dans votre produit avec vos clients ? Parce que c'est là que vous avez envie de les voir revenir ou de les faire rester ou interagir avec vous. Là, il y a plein de réponses. Mais c'est voilà. Le fait d'éclater la communication, un, crée un déficit d'engagement. Deux, ne fait pas revenir les clients là où vous avez envie qu'ils soient, c'est-à-dire dans votre produit.
À part si tu as une application et que tu peux envoyer des notifications push éventuellement pour faire venir le client directement sur l'application, ça reste compliqué. Et c'est vrai qu'après un webinar, moi ça m'arrive aussi, je passe à autre chose, tu retournes sur tes mails, souvent tu les fais en même temps en parallèle. Ouais. Et du coup, quand tu fermes la fenêtre du webinar, c'est vrai que tu retournes tout de suite à ce que tu es en train de faire. Alors que là,
dans le pire des cas, tu t'es même pas rendu compte que le webinar était terminé.
Ouais, ça arrive, j'avoue. Je crois que ça m'arrive 3 mois, mais écoute, c'est hyper intéressant. Donc, déficit d'engagement et de retour sur la plateforme, d'utilisation de la plateforme. Et c'est vrai que si on peut joindre tout de suite, la personne voit un truc, peut l'expérimenter tout de suite. C'est vrai que assez logiquement, on peut imaginer que ça a plus d'impact et que c'est plus intéressant pour les CSM au final. Toujours sur la partie un peu des constats que vous avez fait, des choses que tu vois, que vous avez vues dans l'étude, mais aussi dans les échanges que vous avez avec les CSM. Tu m'avais parlé d'études Gartner Forrester, selon lesquelles il y a 70-75% des utilisateurs de solutions SaaS qui veulent se débrouiller tout seuls pour la prise en main d'un outil. Donc, tu parlais de l'onboarding tout à l'heure, des webinaires d'onboarding, on est un peu là-dedans, je veux me débrouiller tout seul, au moins au début. À quoi c'est dû, à ton avis, cette volonté de se débrouiller seul sans avoir affaire à quelqu'un ? Et qu'est-ce que ça change, justement, dans la manière dont les CSM vont accompagner les clients, ce qu'ils doivent mettre en place, etc.
Ouais, ça, c'est une tendance assez marquée, en effet, qu'on vit tous. Donc, la stat, c'est en effet, selon Gartner et Forrester, il y en a un qui est à 70%, Gartner, Forrester est à 75%. Des utilisateurs de SaaS veulent se débrouiller par eux-mêmes dans la prise en main d'un outil. Ça veut dire que, enfin pour moi, la première raison, c'est générationnel. Hein, c'est qu'on a des utilisateurs de SaaS qui sont de plus en plus matures, qui ont l'habitude d'utiliser des SaaS, parce qu'ils sont quasiment nés avec ça. Et du coup, ils n'ont pas forcément envie de commencer leur expérience avec un SaaS, avec un rendez-vous ou une série de rendez-vous avec un customer success. OK ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément contre. Hein. Si on leur propose, peut-être qu'ils le feront. Mais a priori, dans 70-75% des cas, voilà.
Ils n'en éprouvent pas le besoin, quoi.
Voilà. Donc, toutes les stratégies product-led qu'on connaît aujourd'hui sont bonnes, mais elles sont très, très compliquées à déployer. C'est long d'avoir une stratégie product-like qui marche vraiment. Donc, de faire en sorte que son produit embarque l'utilisateur tout seul comme un grand, sans jamais parler à un customer success. Il y en a, j'ai entendu un chiffre une fois, 1% des SaaS qui arrivent à être réellement product-led. Donc, le customer success doit quand même être là. Et pour autant, il doit être là, mais sans être non plus là en rendez-vous one-to-one. Okay, donc, il y a un petit changement de paradigme qui colle, on a de la chance, ça correspond à la stratégie qu'ont nos entreprises d'essayer d'aller vers beaucoup plus de low-touch. Okay, le low-touch, c'est essayer de privilégier des interactions plus one-to-many ou many-to-many ouais. avec les clients, les utilisateurs. Donc, ne plus systématiquement proposer un rendez-vous one-to-one en kick-off, mais proposer une session d'onboarding one-to-many, par exemple. D'accord ? Pour des raisons, encore une fois, d'efficacité et de rentabilité. De scale, hein. Voilà, de scale, exactement. Donc, les boîtes veulent scaler, les utilisateurs veulent se débrouiller par eux-mêmes. Dans un monde idéal, honnêtement, tout se passe bien.
Ça marche, ouais.
Voilà, ça marche. Sauf que dans 1% des cas, les produits sont réellement bien faits et suffisamment bien faits pour que l'utilisateur se débrouille par lui-même. Ça veut dire que dans 99% des cas, nos 75% des utilisateurs qui veulent se débrouiller tout seuls ne vont pas y arriver. Et donc, il va falloir les aider. Et c'est là qu'en fait, on voit émerger la customer education, c'est-à-dire expliquer. Enfin, il y a deux concepts, mais je vais y revenir. Le product training et la customer education. Mais on voit à quel point ça devient important d'éduquer ses clients pour les aider non seulement à prendre en main le produit, mais aussi à comprendre pourquoi toujours ils devraient utiliser ce produit, quelles valeurs ils vont pouvoir aller chercher avec ce produit, etc.
Okay.
Quand on fait du marketing, ça fait 15 ans qu'on sait faire du nurturing, c'est-à-dire qu'on sait expliquer la valeur de notre produit à un prospect. Et on sait la lui vendre, la lui servir sous tout type de format, le nurturing marketing. Okay, à partir de là, le prospect devient client quand il signe un contrat, quand il s'inscrit à une plateforme. Et on a souvent, à partir de là, privilégié ce qu'on appelle le product training. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que dans le produit, il y ait des éléments qui permettent à l'utilisateur de comprendre pourquoi il doit cliquer sur des boutons et avancer dans son onboarding. C'est le how-to, ok ? On est plutôt bien outillé dans tous les SaaS sur le how-to, click on the button. Mais par contre, le pourquoi, cliquer sur le bouton, on a arrêté. Beaucoup de SaaS n'expliquent plus, une fois qu'il y a eu un sign-up ou une signature de contrat, on n'explique plus à l'utilisateur, on part du principe qu'il a été éduqué avant et puis on arrête de l'éduquer après. Et c'est là une erreur importante parce que on a encore besoin de comprendre pourquoi on a besoin d'utiliser tel produit ou tel service, même si on a sign up, on n'est pas encore particulièrement engagé, on a besoin de comprendre comment le produit marche, mais aussi pourquoi on devrait l'utiliser. Parce qu'il y a un client qui a un super témoignage, parce que le marché évolue de telle manière. Il y a plein de raisons pour lesquelles on doit continuer à éduquer ses clients, évidemment sur l'adoption du produit, mais plus généralement sur le marché, sur les bonnes pratiques, sur les conseils. C'est le boulot du customer success traditionnellement, de le faire souvent en one-to-one, et maintenant il faut trouver une manière de le faire en mode un peu plus low touch avec un moindre niveau d'interaction, quoi.
Okay. C'est la différence que tu fais on avait parlé de entre la customer education et l'onboarding, qui sont deux choses du coup différentes. L'onboarding peut être product-led et on parle vraiment de ce qu'il faut faire, là où la customer education doit aider à comprendre pourquoi on le fait, les avantages qu'on va en retirer, comment on utilise des fonctionnalités avancées, etc. C'est ça la grosse différence que tu fais aussi entre l'onboarding et la customer education, qui sont deux choses différentes qu'il faut adresser par les équipes CS.
Ouais, tout à fait. Je fais même la différence entre le product training, c'est-à-dire vraiment la formation à l'utilisation du produit, qui a été travaillé ces dernières années avec le déploiement de solutions self-service, de product tour, etc., etc. Tout ce qu'on appelle les digital platforms, adoption platforms. Ça marche bien et c'est chouette. Et c'est les équipes produits souvent qui sont en charge de déployer ce type d'outils dans un SaaS. La customer education, ça va au-delà de ça. Ça recouvre une partie de ça, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment expliquer les enjeux de l'utilisation, les problématiques. Okay. C'est continuer de convaincre, en fait. Parce que si on arrête de convaincre un client, même quand il est client, que notre produit, il crée de la valeur, qu'il est meilleur que les autres, qu'il y a des clients qui arrivent à faire des trucs encore plus incroyables que ce que moi, je suis en train de faire avec, bah, il y a un moment, le client, il va partir aussi, quoi. Il va se dire, bon, c'est cool, mais peut-être que je devrais utiliser tel autre outil, et il va churner. Donc, la customer education, c'est une manière de faire de l'onboarding, certes, de la rétention, beaucoup, avec en partant du principe qu'il faut continuer d'éduquer son client pendant toute la durée de vie du contrat, et pas juste, en fait, soit avant la signature du contrat, soit un peu au début pendant l'onboarding.
Okay. Si je recoupe avec ce que tu disais un petit peu tout à l'heure sur c'est quoi le customer success, en fait, c'est de se dire, une fois qu'on a atteint les premiers objectifs qui s'étaient fixés, qu'on avait dès le début, c'est de l'aider à comprendre quels pourraient être ses prochains objectifs, donc continuer à l'éduquer sur tout ce qu'il pourrait faire. Exactement. Et les prochains objectifs pour ensuite continuer d'atteindre des objectifs au fur et à mesure, quoi. C'est construire cette relation sur la durée avec des objectifs qu'on construit au fur et à mesure et qu'on atteint à chaque fois, quoi.
Exactement. Enfin, c'est pas exactement s'épuiser. Ça ouais. Okay. Et ça, c'est le travail du customer success. Encore une fois, c'est souvent encore très high touch et on doit tous réfléchir. On nous demande de réfléchir aujourd'hui à comment faire ça de manière plus efficace et on va dire collective, quoi.
Et justement, alors, si on veut faire ça de manière plus efficace, imaginons on est sur une entreprise, un SaaS qui débute sur ces sujets de customer education, donc, voilà, qui était peut-être très bonne en onboarding, product, etc. Et qui commence à se dire, bon, ok, cette partie customer education, il faut qu'on s'y attache, ça a l'air important, etc. Par quoi est-ce qu'elle doit commencer pour toi pour répondre aux besoins, aux attentes clients, je sais pas, en termes de process, d'outils, etc. C'est quoi les... Enfin, je pense que c'est pas l'outil qui va tout résoudre, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place avant et comment on choisit, comment on y va, quoi.
Alors la bonne nouvelle, c'est que souvent on fait de la customer education sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de contenu qui vise à éduquer un client. On a tous des blogs, on fait des webinars, on fait des vidéos tutos, on a des articles de helpdesk. Donc en fait, le contenu, enfin, la première étape, ça va être de faire un peu un audit, un diagnostic de tous ces contenus éducatifs qu'on a d'ores et déjà créés. Première étape, voir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui manque éventuellement, il y a des trous dans la raquette. Deuxième étape, j'ai eu une discussion par exemple hier avec un head of CS qui me disait, moi j'ai un problème, c'est que j'ai du contenu all over the place. Donc comment veux-tu que mes utilisateurs comprennent? Je leur en ai mis partout, y compris sur un blog qui n'est même pas dans le produit, une helpdesk. Il y a un vague lien à droite, en haut à droite, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait ensuite pour centraliser tous ces contenus et les rendre plus faciles d'accès pour les utilisateurs? Deuxième étape. C'est là que la question, notamment d'une académie, va se poser. Une académie, c'est juste un contenant de tous ces contenus qui existent, que souvent les équipes CS, marketing, product marketing, créent, créent en continu. Donc, on va créer une académie pour une sorte de magasin, de librairie, de toutes ces ressources éducatives pour simplifier l'accès à l'académie et au contenu aux utilisateurs. Deuxième étape. Troisième étape, nous, on est convaincus, mais c'est notre conviction à nous, là, je parle pour Melting Spot, tout le monde n'est pas forcément convaincu de ça, que cette académie doit être embarquée dans le produit. C'est-à-dire que pour simplifier encore une fois l'accès à toutes ces ressources qu'on a réussi à centraliser au même endroit, il ne faut pas que ce soit sur une plateforme tierce. Il faut que ça se passe dans le produit, qu'on n'ait pas besoin de se recréer un compte, qu'on n'ait pas besoin d'ouvrir un nouvel onglet. Non, tout est là. Je navigue dans le produit, je vois l'académie, je vais dans la search bar, je tape un mot-clé, je trouve une vidéo qui m'explique ou je regarde un webinaire, le replay d'un webinaire qui me dit que... Voilà, c'est ça. Le premier niveau, on va dire, de la customer education, selon moi, c'est une académie bien faite, multimodale, donc qui offre et qui centralise des contenus de tout type et de toute forme, dans le produit, en mode marque blanche, SSO, tout ce qu'on veut.
Okay.
Deuxième niveau, si on veut aller plus loin encore, on va devoir créer des raccourcis entre cette académie et ses ressources qu'on a créées et le produit. C'est-à-dire que ce qui est encore mieux, et ça va faire réfléchir un peu tout le monde, c'est que quand je suis en train de naviguer dans un produit, peu importe, un SaaS, je vois une feature, je n'arrive pas trop à comprendre comment elle marche, Je peux aller dans la helpdesk aujourd'hui, c'est comme ça souvent que je vais faire. Je vais taper le mot-clé, je vais retrouver peut-être un article qui me dit, qui m'explique. Je vais essayer de faire le lien entre ce que je lis et puis le produit que j'ai sous les yeux. Ça fonctionne. Mais on doit pouvoir faire mieux en créant des raccourcis, des widgets à chacune des étapes du produit où il y a un besoin d'éducation et de manière à exposer à ces étapes les contenus de l'académie qui sont vraiment pertinents à cette étape-là du produit. Donc, par exemple,
okay,
je regarde une feature dans un produit, je ne vois pas trop comment ça marche, je clique sur un petit bouton, ça m'ouvre un drawer, j'ai les replays, j'ai des forums de discussion, j'ai un article de helpdesk, tout est vraiment en lien avec l'étape du produit à laquelle je me trouve. Tout ça va être piloté par l'équipe Customer Success, évidemment, qui va pouvoir... Et ce qui est encore mieux, c'est de faire en sorte que les contenus qui s'affichent à cette étape-là du produit et qui vont permettre d'éduquer le client, ça peut être un témoignage client qui va lui dire regarde ce que j'ai fait avec cette feature, c'est incroyable. Et ben tout ça va être en fonction du profil du client. Donc si tu es freemium ou tu es VIP, okay, tu verras pas la même chose parce qu'il faut aussi personnaliser quoi. Bon, c'est okay, je vais un peu loin dans l'explication, mais l'idée c'est de diagnostic des contenus éducatifs, centralisation dans un contenant unique. On ramène le contenant dans le produit au plus près de l'utilisateur. Et ensuite, on essaie de créer des raccourcis entre ce contenant, que moi j'appelle une académie, et les étapes clés du produit où il y a un besoin d'éducation. Et on personnalise les parcours. Voilà.
Ok, écoute, c'est hyper complet comme réponse. Ouais, ça a l'air simple dit comme ça, mais déjà je retiens que la première étape que tout le monde peut faire sans forcément partir sur des outils, des choses hyper complexes ou autres, c'est diagnostiquer ce qu'on a comme contenu et essayer de trouver un moyen de le rapatrier dans un endroit. Souvent, on a une chaîne YouTube avec des tutos, on peut rapatrier tout ça.
Voilà, exactement. Déjà, c'est la première étape et c'est efficace.
Et tu vois, toi, des contenus, je sais pas, des formats, des choses qui sont peut-être plus efficaces, plus importantes, plus intéressantes pour cette éducation at scale où chaque, tu vois, t'en as mentionné plein de blogs, posts, de helpdesk, de vidéos, etc.,
ouais, de webinaires. Des cours en ligne, ça peut être plein de trucs, ouais. Franchement, ça dépend des cas parce que tu as des SaaS qui vont avoir des problématiques vraiment d'éducation, mais au sens même certification. Donc, ils vont essayer de faire des cours en ligne certifiants pour qu'à la fin... leur client est quasiment une obligation, on va dire, d'avoir regardé tous les contenus, etc. T'en as d'autres, c'est un peu plus light. Donc, il faut s'adapter à son SaaS, à son cas particulier. Il n'y a pas vraiment de format, encore une fois, type. Et puis surtout, prenons un exemple. Toi, en tant qu'utilisateur, au quotidien, tu veux savoir comment marche tel truc. Il y en a qui vont aller lire la notice d'utilisation d'un objet. Je ne sais pas, tu as acheté un truc récemment, tu vas lire la notice pour savoir comment l'utiliser. Tu en as d'autres, ils vont aller direct sur YouTube, essayer de trouver un tuto en vidéo. Donc, en fait, il faut s'adapter aussi aux appétences de vos utilisateurs et avoir conscience que parmi vos utilisateurs, il y a des lecteurs, il y en a qui préfèrent regarder, d'autres écouter. Il y a de tout dans la nature, il faut s'adapter à tout ça. Quoi. Le contenu éducatif et l'éducation doit s'adapter à tout ça.
Donc avec une diversité de contenu pour répondre aux aspirations de chacun en quelque sorte.
Ouais.
Ok, cool. Et du coup, alors avant de terminer, de passer à mes questions récurrentes, j'ai une dernière question sur un sujet KPIs. Quand tu m'en as parlé, je me suis dit, c'est pas inintéressant cette histoire. De se dire que la partie education doit devenir un vrai KPI. Mis en parallèle de choses plus classiques comme l'adoption, le recurring revenu, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est important pour toi et ce qu'il faudrait suivre du coup comme KPI pour vraiment suivre cette customer education qui n'est pas, encore une fois, c'est pas uniquement l'onboarding où on se dit il a fait toutes les étapes, il a cliqué sur tous les boutons, donc on considère qu'on a atteint notre KPI qui était un onboarding réussi. Toi, tu vois d'autres KPI du coup sur la customer education.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une fois qu'on a déployé une vraie stratégie d'éducation, c'est important d'analyser, de traquer toutes les activités, on va dire toutes les interactions que les utilisateurs de mon SaaS ou de mes clients vont avoir avec les contenus que je leur ai mis à disposition, peu importe où ça se trouve. Il faut savoir que telle personne, tel utilisateur a regardé une vidéo, un webinaire, participé à une discussion dans un forum, lu un article. Toutes ces informations permettent de constituer ce que nous, on appelle le Customer Education Score d'un utilisateur, donc son score d'éducation. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on segmente une base de clients, ce que font toutes les équipes CS, je pense, aujourd'hui.
En général,
notamment pour, dans un deuxième temps, définir des parcours typiquement, et des niveaux d'accompagnement, on va dire, un peu spécifiques, eh ben, on va prendre comme critère, en général aussi, le niveau de revenu, ce qu'on va appeler l'ARR dans le SaaS, donc les revenus récurrents, bon, un critère peut-être un peu plus stratégique, le potentiel d'un client, mais en tout cas, derrière, il y a toujours une notion de revenu, d'accord ? C'est intéressant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je pense en revanche qu'il faut probablement commencer à pondérer ce critère de revenu avec le critère de l'éducation. Pourquoi ? Parce que comme on vient de le dire, 70 à 75% des utilisateurs de SaaS veulent se débrouiller par eux-mêmes dans la prise en main d'un outil. Ça veut dire aussi que s'ils font ce qu'il faut, qu'on leur a mis à disposition les bons contenus, qu'ils les regardent, qu'ils s'éduquent et qu'ils se débrouillent tout seuls comme ils le souhaitent, ça va être très contre-productif de les appeler, de leur proposer des rendez-vous. Ils vont trouver ça intrusif, voire agaçant. Ouais. Donc, un client VIP ou qui a un gros ARR, mais qui s'éduque tout seul comme un grand et comme il le souhaite, eh ben, il ne faut pas l'embêter, ou en tout cas moins l'embêter. Il n'est pas high touch comme beaucoup auraient eu tendance à le faire. Il va être mid, voire low touch. En tout cas, clairement, le customer education score de ce client va venir pondérer l'ARR dans la segmentation qu'on fait de sa base client. À l'inverse, un client VIP qui ne s'éduque pas, et on le sait parce qu'on voit qu'il n'interagit pas du tout avec les contenus qu'on lui a mis à disposition dans l'académie, par exemple, alors lui, il va falloir de manière urgente le ramener sur un call ou sur un rendez-vous. Okay ? Et pareil, un client a priori low touch, c'est-à-dire qu'il y avait un petit ARR mais qui ne s'éduque pas, bah on pourrait peut-être essayer du coup d'aller le chercher avec un call one-to-one parce qu'on a libéré du temps sur les gros ARR qui s'éduquent par eux-mêmes. Donc, la segmentation par l'ARR est bonne. Je ne dis pas qu'il faut...
Il faut bien partir de quelque chose. Hein.
Je dis qu'en revanche, voilà, on doit pouvoir pondérer ça tout en tenant compte de la volonté qu'ont certains utilisateurs de se débrouiller par eux-mêmes, même s'ils sont des gros clients, des gros ARR. Il ne faut peut-être pas les embêter autant s'ils se débrouillent en effet et qu'ils s'éduquent par eux-mêmes. Voilà l'idée qu'il y a derrière donc le tracking des data et ce fameux Customer Education Score.
Ok, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que c'est une question que tout le monde se pose, c'est comment je peux récupérer du temps en tant que CSM pour aller faire des tâches qui ont plus de valeur, accompagner d'autres clients, etc. Donc si on peut récupérer du temps parce que on ne regarde pas que l'usage, on ne se dit pas bah, voilà, ils utilisent bien la plateforme, c'est cool, on regarde est-ce qu'ils apprennent à l'utiliser pour les bonnes raisons et avec les bons objectifs. Ouais. C'est assez intéressant. Merci d'avoir partagé ce dernier point que je trouve hyper pertinent et qui va peut-être nous aider à tous à gagner du temps, donc merci. Et puis merci voilà, pour tout ce que tu as partagé sur la partie Customer Education et tous ces enjeux, tous ces challenges qu'on voit émerger, je pense certains ne seront pas vraiment surpris par cet aspect Customer Education, mais je pense que d'autres sont encore, tu le disais, en IMIS, c'est encore des sujets qui sont en train d'émerger beaucoup moins matures, donc c'est cool de pouvoir en parler. Donc merci pour tout ça, et je voulais finir avec mes petites questions récurrentes que je pose à tous mes invités. Je pense que ça va être intéressant aussi dans le sens où comme tu n'es pas côté CSM au quotidien, tu vas peut-être avoir des suggestions qui sont un peu différentes. La première, c'est ma question sur les outils. Est-ce que tu as des recommandations d'outils que toi tu utilises ou que vous utilisez chez Melting Spot qui seront indispensables pour faire le job, pour faire la customer education notamment, des choses comme ça.
Pour une équipe CS, au sens un peu plus large que la customer education.
Ou que vous utilisez même chez vous qui sont des outils qui sont intéressants dans la gestion de projet, dans des choses comme ça.
Ouais, alors moi je trouve que les outils de product training sont importants et indispensables. Ça peut être un intercom, un beamer, etc. Ça, c'est des outils qu'on utilise et qui sont importants. Comme vous l'avez compris, je suis un fervent promoteur de tout ce qui est in-app, in-product. Donc, les product tours, c'est très bien. Je ne suis pas un grand fan des helpdesk statiques en dehors du produit. Et il y a un outil que j'ai trouvé très chouette qui s'appelle Elevio. Qui est un outil de helpdesk in-app, donc vous pouvez aller voir, il va vous permettre de ramener les articles de helpdesk au bon moment, au bon endroit dans votre produit, plutôt que juste de dropper un bouton help center quelque part dans la navigation bar, dans la barre de navigation. Sur la customer education, bah, selon les besoins, oui, Melting Spot est un bon outil, mais ça dépend un peu de ce que vous voulez, voulez en faire. En tout cas, je le recommande.
Forcément. Obligé, hein. Le contraire m'aurait surpris.
De manière super objective, évidemment.
Bien sûr.
Et ensuite, je pense que une CS plateforme est un super outil justement pour gagner en autonomie, en indépendance au niveau de l'équipe CS et déployer ses propres workflows indépendamment du CRM qui va plus être la mainmise de l'équipe marketing, quoi. Donc, okay. On peut faire des choses avec un CRM, hein, je ne nie pas.
Oui.
Je pense que la CS plateforme, quand on commence à avoir un certain volume de clients, devient hyper intéressante pour avoir plus de réactivité, plus d'autonomie au niveau de l'équipe CS.
Ok, écoute, c'est hyper intéressant, merci. Sur la partie maintenant, toujours recommandation.
Il y a un outil que j'aime bien aussi, mais je vais avoir oublié le nom. Je le partagerai, tu pourras le partager, mais c'est un outil de vidéo tuto AI driven. Je crois que ça s'appelle Guide avec 2D, donc G-U-I-2-D-E. Okay. Guide, qui est un outil qui te permet de cliquer sur des boutons, ça va générer un tuto avec des wordings. C'est assez bluffant. Pour sortir des vidéos tuto en littéralement moins d'une minute, l'outil est dingue.
Nice.
Voilà. Okay. Donc, très bel outil aussi pour les équipes Customer Success qui peuvent lutter parfois à faire leurs petites vidéos, etc. Bah là, pour faire un tuto en moins d'une minute et qui a vraiment une belle gueule, si tu me passes l'expression, Guide, super okay. Outil pour aller vite, quoi.
Ok, bah écoute, je prends des notes, merci. Si on continue sur les recommandations de ressources maintenant, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu consommes comme contenu pour progresser, alors que ce soit sur la partie CS, mais aussi sur Customer Education, des sujets comme ça, est-ce que tu as des ressources qui sont importantes?
Je lis beaucoup de choses, mais je n'ai pas de ressources clés. J'écoute des podcasts, ton podcast, je vais beaucoup dans les communautés, dans les Slack notamment, qui existent sur le Customer Success. Sur la Customer Education, honnêtement, il n'y a pas encore grand-chose. Il faut aller plutôt aux US pour voir des trucs intéressants. Mais en tout cas, sur le Customer Success, les Slack permettent de garder, de s'informer. C'est comme ça que je le perçois. Ouais. Et après, beaucoup de lectures, mais de manière assez opportuniste sur des sujets. Quand je tombe sur des articles intéressants, je suis pas particulièrement de Substack ou autre, par exemple, sur ces sujets-là, quoi.
Ok, écoute, merci. Et du coup, on va arriver à la dernière question qui est un peu un retour dans le temps, de savoir si tu avais un conseil à te donner quand tu as commencé à travailler sur le sujet des Customer Success, par exemple, quand tu as commencé à faire Melting Spot, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu te dire ou à l'époque qui t'aurait aidé à gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, j'en sais rien, qui pourrait être utile aussi à des CSM?
Alors moi, ce que j'ai vraiment, c'est quelqu'un qui me l'a dit, donc ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce qu'on a dit en introduction, c'est-à-dire vraiment chercher à résoudre le problème business et à atteindre l'objectif business du client, quoi. Donc bien le connaître et régulièrement retourner à l'information pour être sûr qu'il n'a pas évolué, parce qu'ils évoluent les objectifs, ouais. Surtout dans des startups qui bougent, dans les stratégies évoluent aussi. Donc voilà, pour moi, c'est ça, que ce soit pour mon équipe de CS ou pour mon métier aujourd'hui dans la Customer Education. J'ai beaucoup aimé cette distinction qu'on fait entre les Low Adoption Customers, les High Adoption Customers et les High Effective Adoption Customers, avec cet objectif de vraiment mettre un maximum de clients dans la dernière case. Ça, c'est la grille de lecture que je trouve hyper intéressante, très simple. Parce que après, on peut faire des trucs très compliqués, mais ça, c'est hyper simple, tout le monde peut comprendre. Et même moi, j'ai compris.
Écoute, merci beaucoup de cette petite grille de lecture pour terminer, du coup, et que je suis sûr sera intéressante pour tous les CSM, puis ça reboucle avec ce qu'on disait au début, donc c'est parfait, tout ça est très cohérent, très lié, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, merci d'être venu dans le podcast, François. Partager tout ça.
Merci.
Et puis, écoute, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très vite.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup à toi, merci à tous.
Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmzanco.com. Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.